Tous les cinquièmes des cieux, priez pour nous. Voilà. Bon, ben, il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps pour regarder le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation. Remarquez bien que c'est des sacrements qui ne sont pas très difficiles pour nous. Je vais vous faire quand même un petit rappel de choses très connues à propos du baptême. Parce que nous sommes en train de faire la recherche, je vous le rappelle, sur la question de la reste du sacrement, la reste de tout le sacrement, et le fruit qui émane de chacun des sacrements. Alors, un petit rappel rapide, des choses que maintenant j'espère que tout le monde connaît vraiment par cœur, à propos du baptême. Quels sont les cinq? Le baptême, donc, est un sacrement. Et ce baptême opère dans la personne humaine qu'il atteint et qui est disposée à recevoir le baptême par le point de vue, donc, de la foi. Il va recevoir cinq grands effets. Donc, au fond, la présence réelle du baptême va se récapituler en cinq points. Dans tous les sacrements, je vous rappelle qu'il y a une présence réelle. C'est-à-dire que Dieu et homme, notre Seigneur Jésus-Christ en une seule personne, qui est la personne du Verbe, Dieu et homme se trouvent réellement présents dans chacun des sacrements. Dans l'Eucharistie, je vous rappelle qu'il est présent par mode de substance. Donc c'est toute l'essence même, la substance même, et l'être tout entier de notre Seigneur Jésus-Christ qui se trouve donc dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans tous les autres sacrements, le Verbe incarné, le mystère de l'incarnation, la personne de Jésus-Christ, Jésus dans son corps, son âme, sa divinité, son humanité, toutes ses gloires, se trouve présent aussi de manière réelle, mais pas par mode de substance. Mais par participation. Ça, c'est la différence énorme entre le point de vue donc de l'Eucharistie et des six autres sacrements. Par l'Eucharistie, Jésus est là, Jésus est présent, homme et Dieu, bon, par mode de substance, et dans les six autres sacrements, par participation. La substance touche le point de vue donc de l'essence même, de la présence substantielle, personnelle, la participation touche le point de vue de la vie. C'est que la substance, c'est quelque chose qui relève beaucoup plus du point de vue donc de l'être, de la subsistance. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'il y ait une interaction très très importante entre l'Eucharistie et les six autres sacrements. Voilà. Bon, ça c'est des choses que vous saviez, je pense. Bon, maintenant, chacun des sacrements étant reçu par un mode de vie, la vie ayant un mode de perfection, c'est l'acte, la vie spirituelle de l'homme rendant parfaite la nature humaine de l'homme, la perfection étant d'ordre, j'allais dire, spirituel, a nécessairement cinq... Il va y avoir nécessairement cinq aspects, c'est ce que nous verrons l'année prochaine, avec l'induction de l'acte. On verra que dans l'induction de l'acte, toute perfection d'ordre métaphysique ou spirituel revêt cinq modalités, mais qui sont co-adjacentes. Bon. Or, le baptême réalise une participation de vie spirituelle à la vie de Jésus qui est réelle. Communication de vie qui est réelle. Et cette réalité de la présence va donc avoir cinq aspects. Bon, ça c'est des choses bon, que vous avez l'habitude maintenant de voir. Hein. Ces cinq aspects, bon, est-ce que vous vous rappelez quels sont les cinq effets du baptême? Les cinq effets du baptême sont... Alors, premier effet. C'est pas le premier effet.
De donner la grâce.
Non, c'est pas le premier effet. Je viens de vous expliquer tout à l'heure qu'au moment de la constitution gamétique de l'Immaculée Conception, à la place de l'abîme qui est constitué le péché originel, c'était remplacé par l'abîme de la plénitude de grâce, hein, dès le départ, qui du coup constitue l'unité de zygotique de la Vierge Marie dans son Immaculée Conception. Hein?
Oui, mais il n'y a pas d'ordre.
Or, donc, tu vois bien que la grâce, si, notre chronologie. si le péché originel est inexistant, et du coup il y a la plénitude de grâce. Hein. Il n'y a pas de caractère s'il y a encore péché originel, impossible. Bon, voilà. Donc, donc, faut commencer par ça. C'est la tâche du péché originel, la tâche du péché, qui est entièrement lavée. On est pardonné du péché. Ok. On est entièrement justifié. On est entièrement lavé du péché. Immaculisé. Bon, du coup, c'est remplacé par la. Ah non, pas tout de suite. C'est remplacé par la grâce. Donc, la grâce sanctifiante, qui est donc quelque chose de différent de la grâce originelle que nous avions en Adam et Ève, la grâce sanctifiante, qui est tout à fait semblable à ce qu'il y a dans la plénitude de grâce de l'Immaculée Conception, dans son première, dans son être, dans sa vitalité originelle, originale même. Cette grâce sanctifiante opère le fait qu'il y a une habitation de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité dans votre âme. La très sainte Trinité va donc habiter dans votre âme. Oui, ça, vous voyez, c'est quelque chose de délicat, ça, parce que Dieu est présent en tout homme, venant en ce monde, n'est-ce pas, sans qu'il ait besoin de la grâce du baptême. Tout le monde a Dieu présent en lui. Dieu est présent en toi, et puis dans n'importe quel être humain que tu rencontres sur le trottoir, par présence, parce que Dieu est présent, par présence d'immensité. Il est partout présent. Non, il est partout présent, sans qu'il soit besoin de poser le Christ, pour l'instant, il est omniprésent. Donc, à chaque fois que tu vois quelqu'un, Dieu est présent, en raison de son omniprésence. Il est présent pour une deuxième raison, parce qu'il fait que tu existes et que tu es suspendu à la créature de Dieu. Dieu te voit, Dieu te regarde, Dieu te considère, Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il te voit et te regarde que tu existes. Le fait que tu existes, que tu touches comme ça, c'est le résultat du fait que Dieu te voit et te regarde. Mais son regard est si étonnant que du coup tu existes. Il me regarde, et alors, vous savez, c'est un regard contemplatif, et quand vous contemplez quelqu'un, vous ne contemplez que lui. Donc Dieu ne regarde que toi, Dieu n'aime que toi, et c'est pour ça que tu existes. Donc Dieu est présent à toi par le seul fait que tu existes, par son acte créateur. Tu es suspendu à la créature. Dieu est présent en nous par présence d'immensité et en raison de son acte créateur. Dieu est présent en nous en raison de sa providence, parce que, du coup, il nous a communiqué la vie, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il me tient par la cause finale. De vie avec lui. Dans le centre même de mon âme le plus lointain, j'allais dire, il y a cette espèce de voix de Dieu, de présence de Dieu, qui m'attire vers ma finalité éternelle. Troisième mode de présence. Quatrième mode de présence, le mode de présence de la grâce sanctifiante. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui est présent en tant que créateur. Tandis qu'ici, par la grâce sanctifiante, c'est la distinction des personnes de la très sainte Trinité, c'est chacune des trois personnes qui est vitalement présente dans la partie la plus spirituelle de mon âme. Et comme ils sont présents dans la partie spirituelle de mon âme, c'est en tant que personne que le Verbe de Dieu est présent à mon âme qui vivifie mon intelligence. Donc le Verbe de Dieu est présent personnellement dans toutes mes soifs de vérité. J'ai une présence réelle du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, deuxième personne. J'ai une présence réelle du Saint-Esprit dans toutes mes soifs d'amour. Je peux adorer le Saint-Esprit en tant que subsistance personnelle et distincte du Père, distincte du Fils et procédant du Père et du Fils. Et j'ai enfin la présence également du Père personnellement en moi, dans le fond même de mon âme, comme principe même de ma vitalité spirituelle, vivifiée par la grâce sanctifiante. Et ici, c'est propre au baptême que de faire que les trois personnes de la très sainte Trinité soient présentes et dans la substance de mon âme et dans mes puissances. Dans la puissance donc contemplative par le Verbe, dans la puissance volitive, affective, spirituelle toute pure, des soifs d'amour par l'Esprit Saint. Et je peux adorer chacune des trois personnes divines distinctement dans mon âme, ils sont vraiment présents. Et ils procèdent l'un de l'autre. dans ce lieu-là. Le jour où je commets un péché ensuite, et que je perds la grâce sanctifiante, la très sainte Trinité, la présence personnelle des trois personnes, n'y est plus, sous le mode sous lequel il est présent par la grâce sanctifiante. Vous le savez bien. Alors je ne peux plus retrouver Dieu que par l'adoration, que par la confiance dans sa providence, ce qui est déjà énorme, bien entendu, mais je suis en dehors de ma prédestination, en dehors de ma sainteté, et en dehors de l'intimité personnelle, vivante de ma personne, avec chacune des trois personnes distinctement. Ça marche ? Donc, deuxième effet du baptême, la très sainte Trinité habite en nos âmes par la grâce sanctifiante. Vous le saviez, j'espère. Hein? Bon. Alors, le troisième effet, c'est que du coup, la très sainte Trinité, elle a besoin donc d'un substitut du mystère de l'incarnation, le caractère. Le baptême imprime dans mon âme à une marque indélébile, indissoluble, même si jamais je devais aller dans la réprobation éternelle, et qu'on appelle un caractère. Ce n'est pas le caractère en disant « quel caractère il a lui !» Un caractère, qu'est-ce que c'est que cette histoire de caractère ? Ce caractère, c'est que vous avez dans votre âme spirituelle incarnée, vous savez que votre corps, qu'est-ce qui donne la forme la plus... La plus essentielle, disons, le principal de votre forme à son corps. Eh bien, c'est la spiritualité de votre âme qui donne la forme principale à votre corps. Vous devez toujours se rappeler que la détermination du corps, c'est l'âme qui donne à son corps, à votre corps, sa détermination. Donc la forme que votre corps vient de l'âme. Et le caractère spirituel de votre âme, c'est ça qui donne à votre corps sa détermination principale. Bon, eh bien, le caractère est reçu dans l'âme et il donne une possibilité, donc, une capacité, caractère si vous préférez, capacité, puissance, un pouvoir nouveau, si vous voulez. Ce pouvoir nouveau, c'est que vous pouvez, quand vous voulez, au moment où vous le voulez, quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez, si vous y mettez toute votre force, toute votre âme, toutes vos puissances, toute votre énergie, tout votre cœur et tout votre corps, vous pouvez, quand vous voulez, poser des actes de foi, d'espérance et de charité théologale. Théologale, c'est-à-dire que grâce à ce caractère, si vous n'avez pas ce caractère, celui qui n'est pas baptisé, je dis par exemple, il n'a pas ce caractère, eh bien, il pourrait dire, ouais, je veux croire à Jésus, ouais, c'est formidable, cool, cool et tout, c'est super, ouais, formidable, tout. Ok, mais à ce moment-là, ce serait la foi, une foi humaine, vous voyez bien ? Ce serait une foi qui serait religieuse, très très forte, qui irait jusqu'à toucher Dieu, à vivre de Dieu, mais ce ne serait pas une foi surnaturelle, ce ne serait pas une foi théologale, ce ne serait pas l'onction totale du Messie qui fait que tu es entièrement à l'intérieur du Verbe de Dieu et dans le sein du Père. C'est à un niveau surnaturel que tu peux poser cet acte de foi. D'accord ? Si tu n'as pas le caractère du baptême, l'acte de foi que tu poses, ce sera un acte de foi qui est lié à la vertu de religion. À la vertu de religion, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ont fait leur éthique. Tandis que le caractère fait que cette vertu de religion explose. Et c'est, la vertu de religion, c'est naturel. Je peux croire au Christ, au sacrement, de l'Eucharistie, etc., à l'intérieur de la vertu de religion. Moi, catho, c'est ma religion. Oui, je suis pratiquant. Mais la vie chrétienne, c'est exploser le point de vue de la vertu de religion. On ne la méprise pas du tout, la vertu de religion. Puisqu'on est relié à Dieu par la vertu de religion. Mais on n'est pas relié à Dieu, on est fils de Dieu. On est Dieu le Fils, dans le Dieu le Père. Et brûlé par l'Esprit Saint dans l'acte de foi et d'espérance et de charité surnaturel. C'est pourquoi c'est une des choses les plus importantes peut-être de la vie chrétienne, de savoir comment on distingue en nous un acte de foi lié à la vertu de religion ou un acte de foi lié à la surnaturalité de la vie théologale. C'est donc très important de faire la différence entre les deux, n'est-ce pas ? Ok ? Donc le caractère, vous voyez, j'ai en moi par exemple la puissance de... J'ai plein de puissance en moi, naturelle. Première la puissance de voir. Grâce à ma puissance de voir, je peux voir le soleil, les couleurs, les formes, les visages. Grâce à mon cœur, j'ai une puissance d'aimer, une capacité de d'être entièrement attiré par quelqu'un d'autre, de ne plus vivre pour moi, et c'est plus que l'autre qui vit, c'est plus moi qui vis. Cette capacité d'extase vient de la puissance de la volonté, du cœur profond, n'est-ce pas? C'est des puissances naturelles que j'ai. Bon, le caractère, c'est une nouvelle puissance. C'est un nouveau pouvoir qui vient se surajouter à tous les pouvoirs naturels que j'ai déjà, et qui fait que je peux faire quelque chose que ne peut pas faire quelqu'un qui n'a pas le caractère du baptême. C'est-à-dire que quand je dis, je fais l'acte de foi, par exemple, et bien l'acte de foi, je dis, je veux croire à Jésus. Et aussitôt, dès que je dis, je veux croire, j'y mets toutes mes billes, Jésus est là, je me colle à lui, j'adhère à lui, c'est lui que je touche par l'acte de foi. Il est là tout de suite. Le caractère me met en connexité immédiate avec Jésus dès que j'adhère à lui par la foi. Et cette connexité fait que ma foi peut devenir vivante et brûlante, et donc je peux pénétrer en lui, adhérer en lui, pénétrer en lui et vivre ce qu'il vit, et lui peut vivre à travers moi ce qu'il vit. Voilà, j'ai fait un acte de foi. C'est un acte de foi surnaturel. Impossible si on n'a pas le caractère du baptême. Et je peux faire cet acte de foi quand je veux, n'est-ce pas?
C'est un acte substantiel. Il est subsistant, je veux dire.
C'est un habitus antitatif, en ce sens que c'est un accident, c'est quelque chose qui vient se surajouter en tant que puissance, en tant que... Donc c'est un accident. En fait. Mais il est antitatif en ce sens qu'il va plus loin que le point de vue même de ta substance. Donc c'est un accident sur lequel vient se greffer quelque chose qui dépasse ta substance même. Alors, la grâce aussi, surtout, est un habitus antitatif.
Mais la grâce, on peut la faire, on ne peut pas faire de caractère.
Voilà, c'est la différence entre les deux.
Pourquoi
la grâce, c'est de la vie. La puissance, c'est une possibilité de dépassement de la vie. Bon, le...
Ok.
Ah ben, ça demeure, il y a quelque chose qui subsiste, ouais. Ouais. Bon. Quatrième effet du baptême. Le quatrième effet.
Est-ce qu'en généralement, dans la résurrection du Christ, non? Parce qu'après l'incarnation, il y a le.
C'est intéressant, mais je voudrais dire avant que tu rentres, tu fais partie du corps mystique. Et non, parce que le caractère fait que dès que tu peux. Dès que tu veux, et quand tu veux, et autant de fois que tu veux, dès que tu fais un acte de foi, le corps mystique de Jésus, qui est le corps réel, tu adhères à lui, tu rentres en lui. Et tu rentres dans tout ce qui, dans cette vitalité unique qui pénètre dans le ventre, dans les entrailles du Christ ressuscité, et du coup, tu es rentré dans son corps mystique. Et il se trouve que son corps mystique, c'est l'Église. Donc tu fais partie de son corps mystique, ça va? Mais c'est tout ça, ce sont des choses finalement qui regardent le point de vue ici, donc de la spiritualité de l'âme. N'est-ce pas? Mais ta personne, c'est-à-dire l'unité de ton âme spirituelle et de ton corps, vont du coup avoir un statut particulier, parce que ton corps fait partie substantiellement de ta personne. Et le baptême, c'est toute ta personne qui est baptisée. Alors du coup, le cinquième, effectivement, comme tu dis, le cinquième aspect du baptême, c'est que tu es... transplanté, incorporé c'est la même fameuse nouvelle naissance, vous voyez. Ton corps est transplanté à l'intérieur du corps mort et ressuscité du Christ. Le baptême, d'ailleurs c'est ça que ça veut dire en grec, hein, baptisma, c'est la plongée. Vous voyez bien? La plongée, les deux, la plongée, tu es plongé. Tu es plongé, mais tu es plongé où? Tu es plongé où? On t'a plongé, on t'a flanqué de la terre, on t'a arraché de la terre, et on t'a plongé. Dans quelle flotte on t'a plongé? On t'a plongé dans les eaux surabondantes de la grâce, la vie nouvelle. Vous voyez la discussion avec Nicodème? De Jésus. C'est une vie nouvelle, les eaux surabondantes, donc de la vie éternelle et de la grâce. Tu es plongé dans la vie divine. Et mais cette vie divine, elle est où? Et dans quel type de piscine elle se trouve? Eh bien, c'est plongé, c'est en même temps, deuxième analogie, la transplantation. Sur la vigne, tu es hanté. Tu pas hanté au sens le hantise, il y a hanté et hanté, n'est-ce pas? Là, c'est pas la maison hantée, n'est-ce pas? Tu es hanté, n'est-ce pas? Tu es comme une plante, comme le sarment que tu coupes et que tu vas transplanter dans le tronc la vie et les serments. Donc, tu es hanté, tu es transplanté à l'intérieur d'un corps. Et c'est le corps de Jésus. Le mort et ressuscité, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que mon corps, c'est ça, c'est assez... Et c'est cela la chose la plus importante du baptême. Les autres sont très importants, évidemment. Je n'ai pas envie de dire le contraire. Mais le truc tout à fait étonnant, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on est fils de Dieu. C'est très étonnant. Je touche mon corps et je sais que mon corps, il n'appartient plus à ce monde, il est arraché à ce lieu et il est planté, transplanté et il habite dans le corps mort et ressuscité du Christ, c'est-à-dire je suis transplanté et mon lieu, c'est l'endroit où Jésus, de son corps mort, passe de cet instant de la mort à l'instant de la résurrection. Je suis coincé en sandwich là. Jésus, il est mort, ici, je suis planté là, et après, il ressuscite. Je suis coincé là, entre la mort, dans le corps. Mon corps est dans son corps, transplanté. Mon corps est physiquement soudé au corps de Jésus qui passe de l'instant de la mort à la résurrection. C'est fou. Hein? C'est une bouture, tout à fait. Oui, mais une bouture, non, oui, bien sûr, mais oui, mais pas. Il faut voir où est-ce que tu fais la bouture. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas une bouture, c'est trop clair. C'est quand même pas pareil si je me suis bouté sur un pissenlit ou sur un... Donc je disais, si mon corps est, mais j'espère que vous sentez le truc, c'est vachement important, ça veut dire que quand tu touches, tu fais un jugement d'existence, et le fait que tu sois baptisé, tu fais un jugement d'existence sur toi-même, tu sais que tu es planté là, dans le corps mort du Christ. Et ce passage corporel de la mort du Christ à sa résurrection, c'est là que tu es planté, c'est ton lieu physique, corporel, matériel, plus que le lieu de la terre qui finalement devient un lieu accidentel physiquement parlant. C'est mon lieu. Le cœur ouvert du Christ, ouvert par cette plaie, d'où jaillit dans tout le corps du Christ le mystère de la résurrection, lequel va habiter immédiatement à partir de ce moment-là dans l'anastasis et dans l'anastase et donc dans la résurrection. Voilà. Bon, voilà les 5 effets du baptême. J'espère que vous en rappellerez toujours, hein, et vous le saviez déjà parce que je l'ai déjà dit bien des fois. Maintenant, c'est comme ça que c'est ce que j'appellerais la présence réelle. La reste du sacrement de baptême, c'est ça. Elle a ces 5 aspects. À bien regarder, en fait, c'est la même chose. Vous sentez bien, n'est-ce pas? Que ces 5 choses, c'est la même chose, mais sous des aspects différents. Et vous sentez bien que la chose principale, c'est ça. C'est que votre corps est planté dans le cœur de Jésus ouvert, dans cette blessure mortelle, laquelle blessure mortelle est source de sa propre résurrection dans tout son corps, et il habite dans son humanité, dans l'omniprésence et au-delà de l'omniprésence. C'est l'égertis et l'anastasis. Voilà les 2 mots qu'il y a dans le Nouveau Testament pour exprimer le point de vue donc de la résurrection du Christ. Il s'est levé d'entre les morts et il est rentré dans l'anastase. C'est 2 choses quand même assez différentes. L'égertis, il s'est relevé d'entre les morts, il a habité tous les lieux et tous les temps. Voilà pour l'égertis. Et l'anastasis, il a fait sauter toutes les limites du temps et de tous les lieux. Et il rentre avec son corps dans la procession du Père, dans le Fils, pour spirer l'Esprit Saint. Ça dépasse tout le mystère de la prise de gloire de tous les temps et de tous les dieux. Ça, c'est l'exercice. L'anastasis, c'est la résurrection, il spire l'Esprit Saint, la très sainte Trinité, et la glorification de tout le cosmos, c'est microscopique. Les effets de gloire de l'exercice, c'est microscopique à côté des effets de gloire de l'anastasis. On avait vu ça l'année dernière. Qu'on avait regardé, médité le mystère de la résurrection. Et malheureusement, en français, dans le Nouveau Testament, on met résurrection ici, résurrection là. On ne fait pas la différence, quel dommage. Mais voyez bien que ici, mon corps est transplanté, et il habite le corps de Jésus qui est là, dans le sépulcre, le grand sabbat, Là, il est là, c'est là que je suis planté. Quand je regarde Jésus crucifié, je suis planté là. Mon corps habite là, dans ce qui est représenté là. Je me retrouve dès que je vois Jésus dans l'Eucharistie, son corps, c'est son corps mort et ressuscité. Et quand je vois et j'adore Jésus Christique, je suis, par le baptême, j'y suis, physiquement, les mecs. C'est le baptême qui fait ça. Et comme le baptême fait ça, étant plongé là-dedans, aussitôt, j'ai plus de tâche du péché dans mon âme, c'est évident. Et du coup, il y a cette vie, l'eau, le sang, l'Esprit Saint, la plénitude, la grâce capitale du Christ qui jaillit dans mon corps, qui déborde, qui dégouline de toutes les pores de ma peau, les mecs. Et j'ai la grâce sanctifiante. Et donc, comme ça déborde, je touche le Père, je touche le Verbe, je touche l'Esprit Saint. Et ils habitent vraiment en moi. Voilà la grâce sanctifiante. Alors du coup, j'ai une puissance pour aller encore plus loin dans cette sainteté, cette intimité avec la personne divine, foi, espérance, charité. Et voilà ce que c'est que d'être solidaire avec tout le corps mystique de Jésus. Et donc de participer à la rédemption du monde. Voilà donc les cinq effets du baptême, et vous sentez bien que ça, c'est une seule présence réelle que je dois rejoindre. Comment on passe de la présence réelle au fruit? Voilà, donc c'était notre sujet. Tout ça, c'est l'introduction, maintenant sujet. J'ai l'impression que la confirmation va passer à l'as. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, le fruit. Bon, je vais chanter le fruit, mais parce que j'en ai déjà parlé. Donc, vous savez que dans tous les sacrements, bon Dieu nous a donné une merveilleuse grappe de raisin, n'est-ce pas, que je reçois et que je vais dévorer. Alors, je vais là, j'ai envie de bouffer cette grappe de raisin juteuse, extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà la reste. Bon, maintenant, comment je vais faire pour prendre cette grappe de raisin et lui donner son jus, lui donner son fruit, presser et transformer? Donc, je peux me nourrir de la reste, vous voyez bien, et vivre de ça. Je peux, vous sentez. Mais je peux aussi ne pas prendre la grappe en la mangeant, et presser et manger le vin délicieux et m'enivrer de ce vin, lui de faire donner son fruit, son jus. Ouais. Vous voyez, deux possibilités de gérer un sacrement. Bon, point de vue théologal, point de vue mystique. Point de vue théologal, point de vue mystique. Il est évident que l'essentiel, c'est le point de vue mystique. Et ceux qui ne vivent pas ce sacrement, parce qu'ils ne l'ont pas reçu, pas de leur faute, parce que c'est des pygmées, ils n'ont pas reçu, peuvent vivre du fruit mystique de ce sacrement de baptême. Donc ils peuvent vivre du baptême, grâce à vous. C'est pour ça que le baptême est un sacrement catholique. Hein?
On peut vivre de n'importe quel sacrement, du point de vue mystique.
On peut vivre de tous les sacrements, du point de vue mystique, de leur fruit, donc de leur finalité, sans avoir jamais reçu un seul de ces sacrements.
Donc, si je n'ai jamais eu la chance de connaître le confessionnal, de connaître la réconciliation.
Tu peux vivre du fruit du mystère de la confession.
Je peux vivre du mystère de la confession.
De la confession.
De la confession.
Absolument.
Sans
t'être jamais confessé. Mais je te préviens que, ordinairement. non, mais enfin bon, c'est bien. On en rencontre couramment, c'est vrai, des gens comme ça. Bon, alors. non, on aura des surprises, hein. On aura des sacrées surprises, bien sûr. C'est évident qu'on aura des surprises étonnantes, hein. Alors, le fruit, comment est-ce qu'on fait donner à cette grappe extraordinaire qui est là, de la présence réelle de Jésus, qui passe de la mort à la résurrection dans mon corps? Parce que c'est bien ça. À son fruit. Eh bien, tout simplement, à votre avis. Je vous l'ai dit, parce que c'est pour ça que je ne me permettrai pas de vous poser la question. Je vous l'ai dit tellement souvent. Oui, mais comment est-ce qu'on fait donner son fruit à la présence réelle du sacrement de baptême? Comment je lui fais presser son jus? En faisant oraison, l'oraison, et en courant à partir de cette présence réelle, en prenant cette présence réelle, en la faisant éclabousser sur moi, en la faisant éclabousser sur moi pour lui donner son fruit, et faire que, du coup, cette fruit-là soit transformé. Et quand je me plonge et je me laisse rentrer et engloutir dans l'opération dynamique, irradiante, fervente et violente de l'union transformante. Et cette violence de l'union transformante qui fait que l'Esprit-Saint inspire et brûle tout en moi par les sept dons du Saint-Esprit. Et pour pouvoir rentrer dans cette union transformante qui fait que c'est le Christ tout entier qui va vivre dans tout mon corps et brûler toutes les parties de mon corps, on ne sera plus deux, on sera un. Moi, le respectant totalement, lui me respectant absolument, et pourtant ne vivant qu'en une seule chair glorieuse, dans une union transformante réelle, allant juste au point de vue physique, donc, et de l'âme, et des puissances, et de la grâce, et du temps, et de l'éternité, n'est-ce pas ? Je vis d'une autre forme. C'est l'oraison. Comment est-ce qu'on fait pour faire oraison ? Ah, et bien pour faire oraison, premièrement, je m'arrête. J'arrête cette espèce de temps stupide. N'est-ce pas ? Je sors de la zone 1. Je sors de la zone 2. Je sors de la zone 3. Je rentre en zone 4. Étant entré en zone 4, je rentre dans l'instant éternel de cet instant présent où c'est moi-même dans mon identité chrétienne. Je retrouve la reste du sacrement. La retrouvant, je fais des actes de foi pour y pénétrer absolument dans toutes mes puissances, dans toutes mes consciences, dans toutes mes lucidités, dans toutes mes énergies. Oui, je rentre dans le corps de Jésus, je l'étreins, je rentre en lui, il rentre en moi, je vis ce qu'il vit, c'est le Père de Dieu qui fasse au Père, qui vit en moi. Et puis, je recommence, je fais des actes d'espérance en disant, je demande à la Vierge, je demande à la plénitude de grâce, à tout ce qui est sorti des mains du Créateur comme grâce sanctifiante depuis le début jusqu'à la fin de la création du monde, de pénétrer en moi, de m'imbiber, de se réfugier en moi, de se concentrer en moi. Toutes les grâces de Dieu. J'ai une confiance totale qu'en ce moment, tu me donnes toutes les grâces, plénitude de grâce. L'Immaculée Conception, elle-même, avec sa plénitude de grâce, s'incarne en moi. L'acte de foi, vous savez bien, c'est moi qui vais vers Jésus. Tandis que l'acte d'espérance, c'est toute la vie divine qui pénètre en moi, je la reçois. C'est un mouvement différent. Et je fais des actes de foi, et je fais des actes d'espérance, et je me laisse brûler par le cœur ressuscité du Christ qui brûle tout dans la résurrection. Expérimentant ainsi dans mon corps cette rencontre fulgurante de l'époux et de l'épouse, dans un amour d'une tendresse infinie. Et cette tendresse infinie fait que quand je regarde mon prochain, c'est avec la même tendresse, la même intensité infinie d'amour que le Père, que Dieu sur moi. Que j'aime mon prochain, celui que Dieu m'y proche de moi. J'aime avec cette tendresse, cet amour que Dieu est si intense, si infini, si incréé, si éternel, si tonitruant, si irrésistible. C'est avec cet amour-là que j'aime celui que Dieu m'y proche de moi. Je fais des actes d'espérance, des actes d'amour, des actes de foi. J'en fais le plus possible au bout d'un certain temps, vous comprenez. Si vous faites ça pendant un quart d'heure, avec la puissance, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est Jésus qui dit ça, pas moi. Hein? Bon, et bien, au bout d'un certain temps de 10 minutes, comme ça, de violence terrible, je vous assure que vous commencez à presser le fruit, la reste du sacrement de très frais. Alors, vous assurez une pression un peu plus grande, ça. Ça y est, le jus coule. À un moment donné, le jus coule doucement, paisiblement. Et c'est l'Esprit Saint qui prend le relais. Et vous vous laissez faire, et vous laissez faire le travail du Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit dans l'oraison. Pour que l'Esprit Saint transforme tout en vous. Et cette union transformante fait de vous que vous êtes assimilé totalement au Christ et à son corps mystique tout entier. Voilà. Ça, c'est le fruit du sacrement. Vous sentez bien que ce fruit est très différent du fruit que nous avions vu pour l'Eucharistie, la confession, le sacerdoce, le mariage. C'est les sept dons du Saint-Esprit. Hein. Et on y rentre par le point de vue de la reste du sacrement, des actes de foi, d'espérance, de charité, en voyant bien où mon corps est situé dans la réalité. Parce que le baptême, c'est une réalité. Ça va ? Confirmation ? Pas de question ? La vie chrétienne, c'est de faire oraison. Quelqu'un qui ne fait pas oraison, comme je viens de vous le dire, n'a jamais utilisé le sacrement de baptême. Donc c'est comme si on avait pissé dans un violon le jour où on lui a donné le sacrement de baptême. Pareil. Quelqu'un qui ne fait pas oraison. Et on doit faire oraison tous les jours. C'est la respiration du chrétien, ça. La vie chrétienne normale, c'est d'expérimenter, de vivre physiquement des sept dons du Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas faire la différence, moi, c'est trop. C'est trop loin pour moi. Ah bon, t'as, donc c'est embêtant, très ennuyeux, parce que ça prouve que tu ne vis pas du baptême. Et le baptême commence comme ça. Et la vie chrétienne commence avec ça. Et tout est basé là-dessus. On doit faire oraison. Ça, c'est capital. C'est capital. Prenez l'exemple sur Gilles, par exemple. Vous voyez que depuis qu'il fait oraison, il est transformé. Et oui, mais c'est tout à fait évident. Il faut faire oraison tous les jours. Et il faut le faire avec la violence qui convient, c'est-à-dire toutes nos billes. Et il faut donner du temps à mon Dieu. Alors bon, très bien, à partir de là, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Il faut simplement savoir comment on fait, c'est tout. Je reconnais que si on ne vous dit pas comment on fait, vous ne savez pas le faire. Et d'où l'importance de savoir comment fonctionne l'arrêt et le fruit du sacrement de baptême. Mais il est évident qu'on doit respirer tous les jours au moins un peu de la grâce du baptême. Et pour ça, on doit faire oraison. Et vous voyez ce que ça veut dire. Donc maintenant, j'espère. Il faut faire beaucoup d'actes de foi. Vous savez, l'oraison, c'est pas ça, hein. Ah, voilà, je suis là, je m'arrête, mon mari me laisse tranquille, hein. J'espère qu'il ne va pas rentrer, tout ça. Et en plus, il est jaloux de Dieu, ce salaud. Bon. Alors, donc... je vais enfin me reposer tranquillement avec moi-même et avec le bon Dieu, je vais faire oraison. Et voilà, je me mets dans mon petit oratoire. Allez. Et je m'étale. Et c'est marrant parce que ça me brûle, ça m'apaise, ça me fait du bien. C'est vraiment la bouse de vache extraordinaire qui s'étale, qui prend de la place. Et elle ne se rend même pas compte que ça pue. L'oraison, c'est pas ça. L'oraison, c'est je me mets debout. Je me lève. On s'est bagarré pendant un siècle et demi de théologie, de catéchèse, de concile, etc., pour condamner le quiétisme comme hérétique. C'est une hérésie qui nous fait abandonner la puissance de la grâce du baptême. Il faut faire des actes de foi. Il faut faire des actes d'adoration. Il faut faire des actes d'espérance. Il faut faire des actes d'amour. Il faut faire des actes. C'est des actes qui m'arrachent à moi-même. Et qui font que j'adhère à Jésus. Que je laisse l'Immaculée Conception prendre possession totale de moi. Et à partir d'elle, je m'enfonce encore plus profondément dans le mystère du Verbe incarné. Et je suis lié au Père. Et avec le Père, j'enfante le Verbe incarné. Et avec eux, j'enfante l'Esprit Saint, et je le répands dans le monde, brûlure de la charité, je le fais, je fais des actes de foi, je suis sûr, c'est ça que je veux faire. Je vis au niveau de la très sainte Trinité, oui ou merde. Et donc c'est ça. Parce que si je vis au niveau du plancher des vaches, ça ne va pas. C'est pas ça, le baptême. Le baptême, c'est faire des actes de vie théologale. Et au bout d'un certain temps, à ce moment-là, ça y est, l'Esprit Saint a l'espace suffisant pour se répandre, pour souffler au fond de moi. Ah oui, là oui, mais c'est l'Esprit Saint qui le fait. C'est pas moi qui me repose, mon âme qui s'étale, qui trouve son repos, enfin, mon mari m'emmerde plus, formidable. Qu'est-ce qu'on est tranquille quand il n'est pas là, à me juger. Bon, c'est clair ça. C'est très important, vous comprenez ça. Et il faut avoir ces moments d'intimité avec, donc... et que l'Esprit Saint puisse avoir la permission donc de faire quelque chose et qu'il y ait vraiment une union transformante. À ce moment-là, mon acte de foi le lendemain sera tout à fait autre chose que mon acte de foi de l'avant-veille. Et c'est pour ça que ce sera éperdument extraordinaire la vie chrétienne, si je fais oraison tous les jours. Ce sera éperdument emmerdant et chiant si je fais pas oraison tous les jours parce que c'est toujours au même niveau. Hein. Bien sûr, moi, toujours en restant, toujours réparer, c'est un peu amusant. Hein. Ah non, la raison va toujours plus loin, toujours plus profond, et on n'a jamais fini. Bon, je pense que c'est clair. Ça va ? Non, est un sacrement qui est donné à condition qu'on ait la grâce du baptême. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où je vis de ça, vous savez que c'est le baptême qui permet de vivre du Saint-Esprit. C'est à cause de ça que je dis que le baptême me donne le Saint-Esprit. Si je vais jusqu'au bout du baptême, et qu'à ce moment-là, Saint-Esprit est libre en moi. Souvent on dit, mais je n'ai pas besoin de la confirmation, puisque par le baptême, j'ai reçu déjà le Saint-Esprit. Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit par le baptême si je vais jusqu'au bout de la grâce du baptême, c'est-à-dire si je suis fidèle et si j'exploite cette grâce du baptême par ma vie théologale et par les moments d'oraison, discipline chrétienne, respiration chrétienne quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, oraison. Ah oui, mais alors la confirmation, on va dire souvent, vous êtes au courant que c'est plus ou moins lié au Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai?
Oui.
Non! Bon, justement, il y a plein de... C'est pas tout à fait vrai, justement. Dans la confirmation, c'est ça qui est commode avec la confirmation, c'est que c'est un des sacrements les plus faciles d'en parler, parce que c'est celui que l'Église n'a jamais explicité, finalement. Et elle dit très peu de choses sur le sacrement de confirmation. Donc voilà ce que dit l'Église sur le sacrement de confirmation, c'est très simple, ça va très vite, il y a deux points et c'est tout. Premièrement, la confirmation imprime dans ton âme un nouveau caractère. Un caractère nouveau, indélébile, une puissance nouvelle, tout à fait différente de celle du baptême. Le baptême te permet de poser donc des actes de foi personnels, d'espérance personnelle, de charité personnelle sur le plan théologal. Voilà pour le baptême, ça c'est le caractère du baptême. Par le sacrement de confirmation, l'ensemble des apôtres descend par la main de l'évêque et à travers l'onction du Saint-Crème et le signe de croix sur ton front, fait pénétrer en toi une puissance nouvelle. Cette puissance nouvelle va te permettre de faire quoi? Elle va déterminer de l'intérieur la puissance de la foi, la puissance de la foi qui était déjà donnée au caractère du baptême. Donc cette foi va avoir à l'intérieur une espèce, ça va être une foi au cube, une foi au carré, quoi. Mais sauf que c'est une foi au carré, c'est de l'intérieur de la foi qu'il va y avoir une puissance nouvelle qui va rentrer de l'intérieur de la foi pour lui donner une nouvelle détermination. Ah, et cette détermination nouvelle que donne le caractère de la confirmation va permettre à ma foi, je ne vais pas seulement être capable de faire des actes de foi théologale, pour vivre de Jésus, mais cette foi, elle va être, si je vis de la présence réelle à l'intérieur de ma foi, de cette puissance de tout le corps mystique et apostolique du Christ, cette foi va devenir de plus en plus vive et contemplative, premièrement. Cette foi sera illuminée de l'intérieur par une certitude inébranlable et sensible. Cette foi va être ointe, onction. Va être ointe d'une armure, d'une, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, d'une armure, si vous voulez, d'une onction telle que ce qui est contraire à la foi, les doutes, ne pourront pas entamer cette foi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, l'onction, c'est de l'huile, on met sur un corps de l'huile, de sorte que l'adversaire, quand il arrive sur vous, vous êtes tout nu, vous êtes rempli d'huile, il essaie de vous prendre pour vous étrangler, vous échappez. Hop, ça glisse. Ça ne marche pas. Il ne vous atteint pas. Il vous touche, mais il ne vous atteint pas. Il ne veut pas vous faire du mal. C'est ce que fait le caractère de la confirmation par rapport à votre foi. Votre foi est comme enrobée de cette espèce d'huile de l'onction. C'est ça, la présence réelle. Cette huile de l'onction fait que, un, les vertus déchues, les puissances déchues et les dominations déchues n'ont plus de prise sur votre foi. Sauf si vous les laissez entrer, volontairement. C'est quand même un peu gros. Mais évidemment, vous pouvez bien entendu faire que les vertus déçues, les puissances déçues, les dominations déçues. Vous savez quelles sont les actions de ces anges déçus, n'est-ce pas ? Non, vous ne savez pas la différence entre quand c'est une vertu déçue, quand tu as une tentation et tu es attaqué par un démon. Tu n'es pas capable de savoir si c'est une puissance déçue, une domination déçue ou une vertu déçue ? Oh, pourquoi ? Vous êtes nuls, oh. J'en ai marre. Bon, ben, toujours est-il que les démons peuvent vous attaquer, n'est-ce pas ? Les démons peuvent... vous voulez vraiment que je... Oui, vous pouvez être attaqué. Votre vertu théologale de foi en particulier, votre vertu de pureté contemplative, de chasteté, votre vertu d'humilité, elle va être contrecarrée par des attaques de l'intérieur, par des fantasmes, par des mouvements intérieurs, qui vont les attaquer. Et ça, c'est le propre des tentations des vertus déçues. Donc des anges qui appartenaient à cette hiérarchie des vertus et qui ont dit non, qui ont suivi Lucifer. Pour les puissances, à l'intérieur de vous, vous avez un certain nombre de puissances, hein, l'imagination, la mémoire, l'intelligence, la volonté, les sens externes, etc., etc., le sens commun, la cogitative, les gens qui sont un peu médiums, hein, la cogitative. Bon, alors, ces puissances de l'air déchues peuvent donner certaines déterminations à vos puissances qui vous paraissent venir de vous. En fait, elles viennent de ces puissances déchues. Elles les attirent en dehors de la présence donc divine. C'est très facile à reconnaître en plus. Bon, et les dominations, c'est ce qui fait la médiation, vous savez, c'est l'ange des médiateurs, du sacerdoce, l'ange des prêtres, les dominations. Donc, normalement, votre corps planté dans le corps ressuscité du Christ, dans la main du Créateur, votre corps spirituel, si vous voulez, il est réceptif par rapport à tout ce qui est divinisation, transformation, sainteté et glorification. N'est-ce pas ? C'est ça qui est normal. Mais vous êtes canal, récepteur et communicateur du divin, de la grâce, de la lumière, de l'immaculation, etc. Ça va ? Voilà ce que c'est qu'une domination. Si vous demandez à tout le cœur des dominations de vous aider, c'est peut-être là, eux, qui vont vous aider le plus à faire que votre corps soit canal de grâce, de divinité, récepteur de divinité. C'est peut-être le meilleur moyen de passer du corps physique au corps spirituel, comme disent certains, n'est-ce pas ? Du point de vue de l'aide angélique. Ah oui, il faut demander à toutes les dominations qui sont dans la vision bénéfique de faire qu'on soit uniquement dans notre corps, eux qui n'en ont pas, canal de grâce, canal de divinité. Les dominations déçues, elles vont prendre au contraire, elles vont faire qu'on va être médiateur de mal, qu'on va par exemple entraîner quelqu'un à faire plutôt du spiritisme. Ah ouais, viens, c'est super, regarde, on a fait ton étape, c'est fini, alors bon, ça fait sa paix et puis on va savoir plein de trucs et tout ça. Bon, les dominations sont là pour m'entraîner à être médiateur dans l'ordre de ce qui nous coupe de Dieu, ce qui nous en sépare de plus en plus, l'air de rien. De choses secondaires. Parce que les dominations vraies, les dominations qui sont dans la sacerdotale, qui sont dans la vision pacifique, si je leur demande de venir pénétrer, de se réchauffer, de m'envelopper comme on enveloppe une entité, n'est-ce pas, à ce moment-là, il y a quelque chose de spirituel tout autour de moi, je suis canal du divin. Ouais. Voilà, je vais vers le bien, je suis médiateur dans l'ordre du bien. Bon, ok, donc cette onction du sacrement de confirmation fait que les attaques de ces puissances déchues, lesquelles attaques seront terribles à la fin du monde. C'est évidemment à la fin du monde que ces puissances-là auront leur maximum d'efficacité et de puissance. Et ils se réservent pour le combat final. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien connu de ce type d'attaque. Alors, c'est pour ça qu'il faut référer au sacré caractère de la confirmation. Au sacré cœur. Au sacré caractère de la confirmation. Alors, à ce moment-là, vous serez, si vous y vivez, si vous êtes capable de trouver dans votre foi la présence sacramentelle du sacrement de confirmation, vous allez vous apercevoir que vos réfugions ici, dans cette espèce de protection, d'onction, votre foi est inatteignable par les attaques des vertus, vous voyez, qui vous rendent impur, qui fait que vous ne voyez plus rien, que par les attaques des puissances qui font intervenir le doute, par les attaques de domination qui ont tendance à faire de vous des médiateurs de choses secondaires, vaines, ou démoniaques, ou ténébreuses. Ça va? Ils vont pénétrer, ça ne va pas passer. Ils vont glisser. Et hop, la glissade, et ils se cassent la gueule, et ils vont se blesser à mort. Et hop, des brancards pour les dominations, les puissances, les vertus d'esprit, à l'hôpital, n'est-ce pas, du... À l'hôpital du combat eschatologique. Ok, bon. Il ne sera pas la Croix-Rouge qui s'occupera d'eux, ce sera plutôt le croissant rouge. Ok, ensuite, vous avez... Mais oui, c'est le monde sublunaire. Tout à fait. Absolument. Donc ce ne sera pas la Croix-Rouge, ce sera le croissant rouge, c'est le monde sublunaire, ça. Et grâce à un caractère de la confirmation, tu fais glisser des myriades d'anges de puissance de Jésus dans les ambulances du croissant rouge. Tu le... Quoi? Où ça?
Domination.
Domination, ma chère Geneviève.